Vous êtes bien sur RDIWA au 101.7 ou 107.5 FM et tout de suite, en naturez-vous.
En naturez-vous ? En naturons-nous ? En naturez-moi ?
Bonjour Liliane.
Bonjour Marion.
Aujourd'hui, tu es venue nous parler du crapaud.
Oui, parce que jusque-là, j'ai parlé des plantes. Mais dans la nature, il n'y a pas que des plantes, il y a aussi des petites bêtes. Et les crapauds, j'y ai pensé parce que cet été, ils ont dû souffrir les malheureux de la chaleur. Ça, les crapauds, ils aiment bien l'humidité. Et je crois que cette année, ils ont été servis. Il y a 500 espèces de crapauds dans le monde. Évidemment, je ne vais pas vous parler des 500 parce qu'alors, on est encore là pour un moment. Je vais donc vous parler de deux plus communs de notre région. Alors, il y a le gros crapaud commun. Son nom l'indique, il est commun. C'est un gros bonhomme. Il a le corps trapu, c'est celui-là que vous avez sûrement déjà vu. Il a la peau épaisse et puis il semble être recouvert de verrues. L'iris de l'œil est cuivré, avec une pupille horizontale. Et c'est le seul à avoir cette couleur cuivrée chez les crapauds, ce qui permet de l'identifier à coup sûr. La femelle, elle mesure jusqu'à 15 cm, alors que le mâle ne fait que 7 à 12 cm. Elle est plus grosse que lui. La reproduction, on dit toujours que les crapauds sont dans la mare. Non, le crapaud ne vit pas dans une mare, il s'y reproduit seulement. Et la reproduction a lieu entre mars et avril, et on entend des sons joyeusement annonciateurs du printemps et la saison des amours. Alors à ce moment-là, les crapauds ils quittent l'endroit où ils sont pour aller se reproduire là où ils sont nés, où leurs parents sont nés, où leurs grands-parents sont nés, etc., etc. Les mâles sont beaucoup plus nombreux que les femelles. Et il n'est pas rare de voir sur une femelle plusieurs mâles. Il y en a même qui resquillent pour arriver jusqu'à la mare. Ils se mettent carrément sur le dos de la femelle. Puis comme ça, ils cheminent tranquillement jusqu'à la mare, sans souci. Une fois dans l'eau, alors là, par contre, c'est l'orgiaque. De tous côtés, des étreintes, des contraintes. Les mâles ne sont pas tendres. Ils sont deux, trois, quatre qui harcèlent la même femelle. Et dans ce bouillonnement de vie, les œufs, ils vont apparaître. Dès que la femelle commence à évacuer ses ovocytes, le mâle l'aide en stimulant l'orifice cloacal et de ses orteils en frappant les côtés, les flancs de la femelle. Ainsi, les œufs sortent de longs cordons d'œufs, un par ovaire, que le mâle arrose de son sperme. Et ça peut durer plusieurs heures, Et lors ces longs cordons d'œufs, ils sont fixés à la végétation aquatique. Et on ne peut pas les confondre avec ces œufs de grenouille, parce que les crapauds, ça fait comme un chapelet, alors que les grenouilles, ils se mettent en boule, en grappe. Alors après, le calme reviendra, les chants cesseront, parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le crapaud qui chante, mais c'est la grenouille. Et puis les chapelets d'œufs en longs rubans mêlés dans la végétation seront là bien visibles à l'œil du promeneur, mais aussi des prédateurs. Et malheureusement, c'est la majorité qui vont être détruits. Il y a seule une petite partie qui donnera naissance à des têtards au début du printemps. En dehors de la ponte, le crapaud commun peut vivre dans divers milieux éloignés des plans d'eau. Toujours, comme forêt, champs, prairies, mais quand même, il aime bien l'humidité. Moi, j'ai connu un crapaud, il avait choisi ma vasque de pétunia pour logement. Évidemment, c'était arrosé, c'était frais. Et je trouvais mes pétunias avaient une trôle de mine, c'était un peu bizarre. Et la terre était toute labourée, j'ai dit, et toutes les nuits, il y avait ce crapaud qui se mettait là-dedans. Finalement, c'est lui qui a gagné, parce que je n'ai pas pu le déloger. Mes pétunias, ils sont morts, et j'ai laissé le crapaud dans ma vasque. Dans votre jardin, il se nourrit d'araignées, de vers de terre, de cloportes, de mille-pattes, mais aussi de limaces, d'escargots, de chenilles, de fourmis, qu'il attrape avec sa langue collante. Il joue un rôle important dans l'écosystème du jardin, en régulant un certain nombre de populations d'espèces et en étant la proie lui-même d'autres animaux comme le hérisson, la couleuvre, le renard, le héron cendré, la martre et la corneille. Mais son plus grand prédateur, c'est l'homme, et en particulier la voiture, lorsqu'il traverse les routes en période de migration. Là, c'est une catastrophe, les pauvres, ils se font écraser. Alors ça, c'est le petit crapaud commun, le gros crapaud commun, si vous voulez bien. Et moi, j'ai une petite préférence, c'est pour le crapaud accoucheur, connu aussi sous le nom d'alite ou encore grenouille cloche. Je l'aime bien parce qu'il est tout petit, il ne fait pas plus de 3 à 5 cm. Et ils ont une tête aplatie, avec un museau rond, l'iris de l'œil est doré, la pupille est verticale et en forme de losange. Il est très présent en été parce qu'il vient se rafraîchir à la nuit tombée dans les coupelles de sous les vases. On le retrouve également dans les serres, entre les salades, ils cherchent leur proie. J'en avais un particulièrement qui régulièrement se mettait dans mes sabots de jardin que je laissais bien sûr devant la porte. Et à chaque fois que je voulais les réenfiler, ben, il y avait un petit alite, il était au fond, alors il faut que je fasse attention de ne pas l'écraser. Et à chaque fois, je ne suis pas pauvre, il revenait toujours dans mes sabots. Il y a peut-être une humidité de mes pieds, je ne sais pas. Et alors là, il y a un sentiment pour moi d'extraordinaire quand je l'écoute, parce qu'il chante vraiment comme un petit hibou petit duc. C'est mignon, hein? Moi, j'avoue que, je ne sais pas vous, mais moi, je l'écouterai pendant des heures, je m'endormirai tout doucement. Là. Il a un petit côté hypnotique, je ne sais pas. J'avoue, j'adore l'entendre chanter. Comme tous les crapauds, son régime alimentaire est très utile pour nos jardins, bien sûr, puisqu'il se compose là aussi de mollusques, d'insectes et de leurs larves. Les alites, ils vivent dans la plaine jusqu'à 2000 mètres d'altitude, mais aussi dans les gorges, les falaises, les canyons. Les canyons, pardon. Ils fréquentent les sous-bois, les éboulis, les vieux murs et les talus. Ils hibernent d'octobre à mars dans des décombres ou entre des racines. Et pour échapper au dessèchement de leur peau en période caniculaire, ils creusent parfois un petit terrier où ils trouvent un peu d'humidité. Alors moi, je pense à eux cette année, les pauvres, ils ont vraiment, vraiment, vraiment dû souffrir. Mais ce qui lui vaut son nom d'accoucheur, c'est quelque chose de particulier chez les crapauds et qu'il est le seul des crapauds à faire. L'accouplement du petit accoucheur est très très particulier. D'abord, il a lieu à terre, contrairement à tous les autres crapauds qui font ça dans l'eau. Lui fait ça à terre pendant la nuit d'avril à août. Les mâles tiennent les femelles par le cou et provoquent par des mouvements de leurs pattes une friction très vive de la région cloacale de leur partenaire. Ces massages répétés jusqu'à 2000, accompagnés d'une compression violente des flancs des femelles, provoquent la ponte. Mais ce n'est pas tout. Parce que les œufs, un peu moins d'une centaine, tombent entre les pattes postérieures des mâles, qui les fécondent aussitôt et les gardent ainsi environ 3 semaines jusqu'à ce que les têtards soient pourvus de branches internes. C'est eux, donc, qui s'occupent des œufs. C'est pour ça qu'on les appelle accoucheurs. Pour éviter la dessiccation de leur ponte, les pères humidifient les œufs chaque soir dans la rosée ou dans l'eau. Vous vous rendez compte, ils sont mignons. Profitant d'un de ces bains, les jeunes têtards s'échappent pour terminer leur cycle de développement quand ils sont prêts au milieu aquatique. Ils mettront en tout 1 an pour devenir de petits crapauds. On fait souvent la confusion entre un crapaud ou une grenouille. Moi, je vous donne un truc pour reconnaître la grenouille d'un crapaud. La grenouille, elle se déplace en sautant. Et le crapaud, lui, eh bien, il marche. vous ne verrez pas un crapaud sauter. Il marche. Le crapaud, en général, est silencieux. Alors que le vacarme, qu'on leur attribue à tort, sont l'effet des grenouilles. Ce sont les grenouilles qui coassent. Attention, le corbeau croasse. Le crapaud, lui, ben, il se tait. Sauf à la saison des amours, où notre amphibien fait l'amour en chantant. C'est un poète. Danger pour l'homme ? Non. Il est possible de prendre un crapaud dans sa main sans subir la moindre morsure ou même irritation. Je n'irai pas jusqu'à l'embrasser comme dans le conte où il se transforme en beau prince. Non, j'ai jamais essayé quand même. Il possède des glandes à venin, c'est vrai, mais elles sont inoffensives puisqu'elles doivent être percées pour être efficaces. Donc on peut le prendre, il n'y a pas de problème. Pas de comparaison possible donc avec le danger que représentent les vipères, par exemple. Dans votre jardin, évitez d'utiliser des produits chimiques, bien sûr. Selon sa place dans la chaîne alimentaire d'un jardin, il peut manger des insectes empoisonnés et empoisonner à son tour ses prédateurs. On l'a vu pour le gros crapaud, c'est la même chose pour celui-ci. Offrez-lui des abris pour l'hiver. Il peut trouver refuge sous un tas de pierres, dans un tas de bois, de feuilles mortes, sous de vieilles tuiles ou de vieilles souches. Le crapaud, il est vraiment repoussé en Occident par sa laideur. On ne l'aime pas. On le trouve vilain. Mais il n'a pas toujours été partout. Malmené dans la littérature et les contes pour enfants, il est défendu par Victor Hugo dans La Légende des siècles. J'ai failli vous le dire après la Légende des siècles, mais elle est tellement longue et tellement triste que j'ai abandonné. Je préférais vous faire un petit truc plus rigolo. Si le crapaud est très présent dans la littérature occidentale, il est rarement à son avantage. Bon. Sans doute impressionné par mes lectures enfantines, chaque fois que je vois un crapaud, je peux m'empêcher, je vous le disais tout à l'heure, de penser à ces contes et légendes évoquant des princes charmants métamorphosés et qu'un baiser de livrerait de ce vilain corps. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas essayé. Depuis longtemps, ce pauvre animal est malmené. Il est traité de sorcellerie. Regorge de recettes en tout genre à base de cendres, de peau de crapaud, bouillies, fumées, séchées, de préparations maléfiques à base de bave de crapaud. Au Moyen-Âge, on l'égorgeait parce qu'il était censé contenir une crapaudine. La crapaudine, c'était une pierre magique qui servait d'antidote à tout type de poison. Eh ben, j'imagine le nombre de ces pauvres bêtes assassinées pour combler la déception de celui qui cherchait la crapaudine et qui, évidemment, ne la trouvait pas. Les années et les siècles passent, mais notre pauvre crapaud est toujours discrédité. Le dictionnaire de Trévoux, en 1752, le qualifie d'animal infect et venimeux, dit que son sang est mortel et qu'il répand son venin en bavant et pissant dans l'herbe. Il n'était toujours pas réhabilité. Le problème, il est encore plus difficile de trouver de la bave de crapaud qu'une sorcière, et ceci pour la bonne et simple raison que le crapaud ne bave pas. Voilà. Pauvre animal calomnié, accusé de diablerie, dont la seule présence près de votre habitation lors de l'Inquisition suffisait à vous rendre suspect. Et bien sûr, symbole de mort, d'obscurité, de ténèbres. Et pourtant... Au musée de Reims, sur la tapisserie représentant la victoire de Tolbiac, on peut voir Clovis, revêtu d'un surcot jaune, semé de crapauds de sable. Et à Orléans, sur le bas-relief figurant une bataille entre Francs et Germains, l'étendard fleur-de-lysée est apparu avec un étendard chargé de 3 crapauds noirs. Au XVIe siècle, dans la chapelle du château de Frankenburg, dont le fondateur serait Clovis lui-même, on pouvait admirer une fresque figurant les armoiries du roi, 3 crapauds noirs sur champ blanc. Vous voyez qu'il n'a pas toujours été discrédité. L'armorial du héros Gelre, vers 1400, mentionne l'écu d'azur à 3 crapauds d'or. Il attribue à Priam, présenté comme l'ancêtre de Clovis. Mystère, on ne sait pas pourquoi. Alors, symbole royal, à moins qu'il y ait confusion avec la grenouille, symbole de résurrection. Il n'est pas dénigné, heureusement, partout dans le monde. En Chine, il est considéré comme la divinité de la lune, selon une ancienne légende. C'est aussi un crapaud qui dévore la lune au moment des éclipses. La tradition chinoise hésite entre l'aspect yin et yang du crapaud, mais avec une préférence toutefois pour le premier. Ceci s'explique par la prédilection de l'animal pour les endroits sombres et humides. Au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, Amérique centrale, déifié, sculpté, il était l'un des symboles de l'eau et appelé la pluie. L'observation était bonne, il confirmait le désir d'humidité sur le pot. Voici un exemple vécu. Nous campions en Corse avec toute ma famille et une nuit, un terrible orage a éclaté. Craignant l'inondation, nous sommes tous réfugiés dans les toilettes en compagnie d'autres campeurs. À la fin de la grosse pluie, quand on a pu sortir, il y avait des crapauds partout, partout, partout. Certains disaient « il n'a plus des grenouilles, il n'a plus des grenouilles ». Ah ben non, je vous assure, c'était bien des crapauds, pas des grenouilles. Ces petites bêtes ne nous ont pas mordus, pas attaqués, ne nous ont pas sauté dessus. On aurait pu facilement leur marcher dessus, sans dommage pour nous, sinon ensuite glisser. Il y en avait vraiment partout. Les grenouilles, donc, qui vivent dans l'eau, n'en sortent pas par temps de pluie. Les crapauds, par contre, frayant d'humidité, sortent de tous les trous et se retirent tout le jour. Et c'est pour ça que chez les Égyptiens, où il était le symbole de la multitude, il réapparaissait au printemps par milliers à la saison des pluies. Et tout le reste de l'année, quand il faisait si chaud, on ne les voyait pas. Et on ne les voit toujours pas. La déesse Hekhet, à la tête de crapaud, est associée à l'eau du Nil, qui donne la vie aux êtres créés par son époux, le dieu Khnoun. Dans sa tâche divine, elle apporte sa protection aux femmes enceintes et accompagne le défunt Pharaon dans son ascension céleste. Au Vietnam, il existe un petit crapaud tout rouge, il est très joli, tout rouge. Il est symbole de succès, ou bien de la force, du courage et de la richesse, parce qu'il est écarlate. Vous savez que là-bas, c'est le rouge qui est l'emblème de la richesse. Peut-être en raison donc de sa rareté, à moins que ce soit à cause de sa couleur faste. L'Afrique en général lui est favorable, sauf pour les pygmées bamboutis qui le considèrent comme un esprit maléfique responsable de l'installation de la mort sur Terre. Ailleurs, il est réputé guérir les brûlures et on dit qu'il ne craint pas la morsure de serpent. Les Bambara croient qu'il se transforme en souris pendant la saison sèche. Au Sénégal, on dit « on ne peut pas soulever le derrière d'un crapaud, il se dirige toujours vers le bas ». Cela signifie que l'on ne peut pas changer la nature. En Tanzanie, les crapauds restent toujours près de l'eau, mais n'en boivent pas. Cela signifie que les avares gardent leur argent, mais ne l'emploient pas. Les crapauds, comme bien d'autres espèces, semblent pressentir les séismes par certains signes discrets. La capacité des crapauds à détecter un tremblement de terre avant les hommes a été confirmée quelques jours avant le séisme de l'Aquila en 2009 par des chercheurs. 5 jours avant le séisme, 96% des mâles avaient quitté la mare où ils étaient observés. Or, cette mare était située à 74 km de l'épicentre. Le séisme se préparait au moment de la reproduction des crapauds. Ces derniers ont néanmoins alors provisoirement perdu tout instinct de reproduction. Ils ont quitté leur mare pour aller s'abriter en forêt. Et 3 jours avant le séisme, tous les couples avaient abandonné la reproduction. Aucune fécondation n'a été observée cette année-là, avant la fin des dernières répliques. C'est donc peut-être par hasard si les Chinois ont inventé le sismographe. J'ai eu l'occasion de le voir, c'était une poterie magnifique, comme savent en faire les Chinois, et qui avait des petits crapauds, 12 petits crapauds tout le tour, avec dans la gueule une bille. Et aux moindres oscillations de la Terre, ces billes tombent. C'était le sismographe en question. Quoi qu'il en soit, que l'on accorde ou non de l'importance à toutes ces croyances, j'aimerais que dorénavant vous le regardiez d'un autre œil. Certes, il n'est peut-être pas très joli, mais au-delà du fait qu'il nous rend de grands services au jardin, c'est une petite vie, un petit cœur apeuré par notre présence, et toute vie est respectable, même la plus laide. Et si vous en avez dans votre jardin, prenez-en soin. Ça vous évitera les insecticides, et surtout, laissez-le vivre sa petite vie de crapaud. En nature et moi.
Merci Liliane pour toutes ces informations. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir appris beaucoup, beaucoup de choses.
Ben, j'espère.
Et pour prolonger ça, tu es également venue avec un conte sur le crapaud.
Un conte sur le crapaud. Alors, c'est un conte qui vient d'Australie. Un crapaud vivait au bord d'un trou rempli d'eau près d'un ruisseau. C'était un petit crapaud, discret, tout à fait ordinaire. Et justement parce qu'il était ordinaire, il avait envie de devenir extraordinaire. Il réfléchissait aux moyens de se faire remarquer. À force d'y penser, il eut une idée. Il se mit à boire l'eau de son trou. À boire, à boire. Et il la but jusqu'à la dernière goutte. Et il commença à grossir. Ensuite, il se mit à boire l'eau du ruisseau. À boire, à boire. Et il la but jusqu'à la dernière goutte. Et il grossissait de plus en plus. En suivant le lit du ruisseau, il arriva à la rivière et il se mit à boire l'eau de la rivière. À boire, à boire, à boire. Et il la but jusqu'à la dernière goutte. Et comme la rivière se jetait dans le fleuve, il alla près du fleuve, il se mit à boire l'eau du fleuve, à boire, à boire, à boire, et il la but jusqu'à la dernière goutte. Et le crapaud gonflait, gonflait. Comme le fleuve se jetait dans la mer. Eh bien, le crapaud allait jusqu'au bord de la mer et se met à boire l'eau de la mer. À boire, à boire, à boire. Et il la but jusqu'à la dernière goutte qui était la dernière goutte d'eau sur toute la terre. Son ventre, ses pattes, sa tête étaient gorgés d'eau et même ses yeux qui devinrent tout globuleux. Le petit crapaud était maintenant extraordinaire. Gigantesque, sa tête touchait le ciel. Les plantes avaient soif, les animaux avaient soif, et les hommes aussi avaient terriblement soif. Alors, tous se réunirent pour chercher un moyen de récupérer l'eau de la terre. « Il faut qu'il ouvre sa large bouche afin que l'eau se rejaillisse sur la terre, » dit l'un. « Si on le fait rire, » dit quelqu'un, « il ouvrira la bouche et l'eau débordera. » « Bonne idée !» dirent les autres. Ils préparèrent alors une grande fête et les animaux les plus drôles vinrent du monde entier. Les hommes firent les clowns, racontèrent des histoires drôles. En les regardant, les animaux oublièrent qu'ils avaient soif, les enfants aussi. Mais le crapaud ne riait pas, ne souriait même pas. Il restait impassible, immobile. Les singes firent des acrobaties, des grimaces, dansèrent, firent les pitres. Mais le crapaud ne bougeait pas, ne riait pas, ne faisait même pas l'esquisse d'un sourire. Tous étaient épuisés, assoiffés. Quand arriva une petite créature insignifiante, un petit ver de terre qui s'approcha du crapaud. Il se mit à se tortiller, à onduler. Le crapaud le regarda étonné. Le petit ver se démena autant qu'il put. Il fit une minuscule grimace et le crapaud éclata de rire, un rire énorme qui fit trembler tout son corps. Il ne pouvait plus s'arrêter de rire et les eaux débordèrent de sa bouche grande ouverte. L'eau se répandit sur toute la terre et le crapaud rapetissa, rapetissa, rapetissa. La vie put recommencer et le crapaud reprit sa taille de crapaud ordinaire. Il garda juste ses gros yeux globuleux en souvenir de cette aventure.
Merci Liliane. Suite au prochain épisode,
oui.
Pour encore plus d'histoires sur la nature.
Passant près d'un ruisseau, j'entendis le chant d'un crapaud. Tout à coup, regardant sur l'eau, je l'ai avisé qu'il chantait tout haut.
Doudlin, 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 dé.
Il n'était pas bête ce crapaud-là.
Doudlin, 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 dé.
Il n'était pas bête ce crapaud-là. crapaud se moulait d'amour pour une grenouille des alentours. Il aimait tant à ce qu'on dit qu'il en avait perdu l'esprit. Il n'était pas bête ce crapaud-là. Il n'était pas bête ce crapaud-là. La grenouille l'avait charmé avec son chant désespéré. Voilà qu'un jour elle est partie. Depuis ce temps-là, le crapaud s'ennuie. Il n'était pas bête ce crapaud-là. Il n'était pas bête ce crapaud-là. Bonjour, Monsieur Crapaud.
Bonjour, Roland.
Est-ce qu'il y a de la mouche aujourd'hui?
Ah oui, beaucoup. Est-ce que tu aimerais en avoir une?
Non, merci, Monsieur Crapaud. Je dois aller à l'étable m'occuper des animaux. On se revoit tout à l'heure.
D'accord. À bientôt.